Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Comment ça va les 28 déjà connectés? J'espère que vous allez bien. Pourquoi je n'arrive pas à régler la luminosité sur mon iPad? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis passé sur la bêta et en fait, ils ont mis sur l'iPad le même geste que sur l'iPhone. 5 sur 5, nickel, tout va bien. On va commencer en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Romain, Yannick, Zanketa, Sushi13, Laurent et Haddock. Merci à eux pour leur contribution sans qui nous ne serions pas là. Je vous rappelle, c'est normal, hein, c'est la préparation des vacances. On se dit, oulala, il faut que je fasse des économies, les chichis, les chouchous sur la plage, ça va coûter cher et tout ça. Je vous rappelle quand même, avant de partir en vacances, n'oubliez pas de vérifier que votre carte bleue est toujours active sur Tipeee, si vous avez eu des mails de relance, si Marion vous a écrit parce que vous auriez oublié par inadvertance de renouveler votre Tipeee. Un iPad 10 en préparation, ouais, peut-être. À 2 SMIC. Mais il est pro. Il y a des coupures. Ah, mince. Il y a des coupures. Je suis sur le Wi-Fi ce matin. Est-ce que vous avez des coupures? Je suis sur le Wi-Fi parce que j'ai plus de forfait 4G. Je l'ai complètement grillé ce mois-ci. À force de bosser à l'atelier en 4G. Et je peux vous dire que l'installation de la fibre par Orange s'est soldée par un fail hier. En fait, le boîtier était trop haut. Il faut qu'il revienne avec deux techniciens. Donc, encore une semaine de délai avant d'avoir la fibre dans l'atelier. Donc, il va falloir faire avec le Wi-Fi d'ici. Bon, on a trouvé une solution à l'atelier. On a tiré un câble. De chez Albert jusque dans l'atelier. Donc ça ira pour le jeudi Tipeee ce jeudi, mais c'est une solution temporaire. Voilà, mais je ne vais pas pouvoir basculer en 4G parce qu'ils me l'ont bridé, vu que j'ai tout consommé. Allez, on va commencer ce matin, on va parler de quoi? On va parler du scandale en préparation autour de Gmail. Oh, des développeurs lisent nos mails. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et on fera un petit peu le point sur cette affaire avec deux articles pour vous expliquer déjà la situation. Et Google essaye d'éteindre un petit peu l'incendie déjà ce matin. En parlant d'incendie, nous parlerons également de l'AK-47 laser chinois, coup de com' ou réalité. Vous avez peut-être vu passer la news hier, un effrayant fusil, pistolet, carabine, mitraillette laser. Est-ce que la Chine aurait trouvé le laser qui va révolutionner la guerre? On verra. On parlera également de Greenpeace qui a grimé un drone en Superman et qui l'a écrasé contre la centrale nucléaire de... On dit Bugey, je voudrais pas vexer des gens qui habitent par là-bas. La centrale du Bugey, je ne sais pas où c'est. Je sais que c'est en France, mais je ne sais pas où c'est. C'est où le Bugey? Vous connaissez? La chatroom, aidez-moi, help. Bref, on verra cette opération effectivement de Greenpeace qui veut mettre effectivement en lumière la vulnérabilité de nos centrales nucléaires à des attaques. Pas loin de Lyon, d'accord. Centrale du Bugey, d'accord. Ok, bon, bah, c'est bon. On parlera également d'Instagram. Instagram et les influenceurs qui dénoncent les faux influenceurs. Je vous parlerai un petit peu du business de l'influence. Effectivement, cette fâcheuse tendance, mais bien réelle, effectivement, la recrudescence des faux influenceurs. Y a-t-il des vrais influenceurs? C'est la question qu'on se posera aussi. Et on terminera en parlant de photos un petit peu, et non pas d'un objectif, deux objectifs, mais un smartphone peut-être à neuf objectifs. On parlera justement de la société Light qui a lancé un appareil photo à 16 objectifs. Je vous reparlerai de cette technologie et qui serait en train de l'adapter sur un smartphone qui aurait 9 objectifs. Vous allez avoir l'air d'une merde avec vos 2 objectifs que vous avez payés super cher en 2017. On dit bugué. Ah, la centrale du bugué, d'accord. Bon, on dit bugué ou bugé ou je sais pas moi. Bon, c'est dans l'un. Merci Patrick. Voilà en tout cas pour les articles du jour. Non, c'est une joke. D'accord. Si en plus vous me mettez des jokes, moi je pensais que j'avais une chatroom quand même qui m'aidait et non pas qui essayait de me faire partir en sucette. Les smartphones maintenant, c'est comme les rasoirs. C'est exactement ça. Et bientôt le 16 lames. Qui va vous découper la peau et vous faire ressembler à un zombie, mais vous n'aurez plus un poil qui pousse. Allez, on commence. On va parler effectivement du scandale Gmail. Quand je dis scandale, c'est qu'il y a un beau petit scandale en préparation. Quand on voit effectivement ce qui est arrivé avec Facebook et ces affaires-là, la manière dont les choses sont présentées pour Gmail, ça s'engage mal. Vous, la chatroom, vous le savez depuis longtemps, hein, que Google livre au Gmail, hein, qu'il y a une équipe dédiée qui, tous les matins, ouvre la boîte de l'un d'entre vous, hein, ils prennent au hasard, ils font random, et ils vont lire tous les petits mails que vous avez envoyés, et ils se marrent bien en lisant vos mails. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, surtout que, a priori, cette année, Google a dit qu'il changeait son fusil d'épaule. En fait, il faut comprendre que effectivement, les machines de Google lisaient, je dis bien lisaient vos Gmail pour faire du profiling publicitaire, au même titre qu'ils étudient votre comportement sur le web, afin non pas de vendre vos données à des marques ou des gens méchants, mais de vendre du ciblage publicitaire pour pouvoir mettre de la pub. Donc, vous aviez de la pub dans Gmail, hein. On ne la voyait pas beaucoup, finalement, la pub dans Gmail, mais on la voyait. Au niveau de la majorité des mails, ça doit les faire rire. On prononce budget. OK. Je suis nul en phonétique. J, entre guillemets, ça veut dire... Bon, on reviendra là-dessus. Google avait annoncé d'ailleurs cette année qu'ils arrêtaient de le faire, que le business model de Gmail devenait maintenant exclusivement la vente de la G Suite professionnelle. Donc Gmail reste gratuit, mais au lieu d'avoir un business model qui est basé sur la publicité et la vente de ciblage publicitaire, le business model de Gmail consistait à vous faire basculer, quand vous aviez une entreprise, à des formules G Suite payantes. Jusqu'à là, tout va bien. On pouvait même se dire, c'est plutôt bien parce que maintenant, Google va arrêter de sniffer avec ses robots mes mails pour essayer de trouver des mots-clés pour savoir si je m'intéresse beaucoup, par exemple, à l'achat de pots de peinture ou est-ce que Jérôme fait des travaux ou ce genre de trucs pour me mettre des pubs ciblées. Bon, t'es plutôt bien. Oui, mais on est exactement dans le même cas de figure que Facebook. Le truc, c'est que Gmail est ouvert à des applications tierces. Et vous en utilisez peut-être des applications anti-spam, ce genre de trucs. Et quand vous avez cliqué hyper rapidement, sans faire gaffe aux autorisations de cette fameuse appli tierce croate que votre copain vous avait recommandé en disant oh, « Tu verras, c'est vachement bien, ça met des licornes dans tous tes mails automatiquement, c'est trop bien, trop bien. » Vous avez cliqué, vous avez cliqué, vous avez fait ouais, j'accepte toutes les conditions. Bah, dans les conditions que vous avez probablement acceptées, vous avez donné le droit à des développeurs tiers de lire également vos mails. Alors, de lire, c'est là où il faut être un petit peu intelligent. Non, il n'y a pas des gens qui sont en train de lire vos mails en disant oh, t'as vu, il a fait une faute d'orthographe. Oh, le bouffon. Non, non. Enfin, on n'en sait rien. Mais en tout cas, vous leur avez donné le droit de le faire. Que ça soit avec des robots, que ça soit avec des bases de données qui vont chercher des mots et ce genre de choses. Donc, vous avez donné ces droits-là. Et on est exactement comme dans le cas de figure de Facebook. En fait, quelque part, nous, on le sait tout ça depuis longtemps. Mais là, ça éclate au grand jour. C'est le Wall Street Journal qui a sorti cette news. Moi, ça me fait toujours rire parce qu'on a, un petit peu envie de dire, mais les gars, vous êtes nés de la dernière pluie ou quoi ? Ça fait longtemps que Gmail n'est pas gratuit. On le sait, nous, depuis hyper longtemps. Mais c'est quand même important de comprendre que le grand public n'est pas conscient de ça. Et que maintenant que la presse plus généraliste s'empare de ce genre d'histoire et que ça commence à faire des sacrés remous, ça met tout le monde au courant. Je suis certain que mes parents à qui j'ai ouvert des Gmail, je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Ils vont me dire, mais Jérôme, j'ai entendu aux nouvelles que des gens lisaient nos mails. Nos mails, mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui ouvre avec un ouvre-papier tous nos mails et qu'il les lise. Ouais, on peut résumer les choses comme ça. On sait, nous, que c'est plus complexe que ça et que, de toute façon, voilà, ces services ont toujours fait ça. Nous, nous sommes une élite. Non, Technique Savoir, loin de là. Enfin, si tu veux, oui, on va dire qu'on est une élite. Ça passera mieux. Non, c'est surtout que nous, on est conscients de ça parce qu'on lit des news tech, qu'on écoute un mec tous les matins qui nous lit des news tech, qui nous met au courant, et puis ça fait longtemps qu'on s'intéresse à tout ça, quoi. J'ai la même peur que toi, j'ai aussi un Gmail à ma maman. Hey, on va tous être là au prochain repas de famille, ça risque d'être compliqué d'expliquer, hein. Ça risque d'être compliqué parce qu'ils vont nous dire « Mais pourquoi ? Pourquoi tu nous as ouvert un Gmail ? Maintenant, ma voisine peut lire mon courrier !» T'as expliqué à tes parents que c'est comme une carte... Oula ! Non, ça serait trop compliqué parce qu'ils vont me demander où est la photo. C'est compliqué, ça. Déjà, mes parents ont du mal avec les serveurs d'envoi et les serveurs de réception. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais constamment, ils perdent les autorisations de leurs serveurs d'envoi et de leurs serveurs de réception. Pourtant, j'ai configuré ça, j'ai essayé de blinder, j'ai essayé de planquer. Régulièrement, je ne sais pas, ils perdent les mots de passe, le truc part dans la nature. Bref. Mes parents ne m'écoutent pas tous les matins. Il arrive à mes parents de regarder si je suis bien coiffé, en fait, dans les Techscopes du matin. Mais à part ça, non, ils n'écoutent pas toutes mes news. Bref, tout ça pour dire, Google est en train d'essayer d'éteindre cet incendie en précisant, oulala, attention, 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 ne racontez pas n'importe quoi. Oui, nous donnons des autorisations à des applications tierces de lire les mails, mais on les trie sur le volet. Ce n'est pas un développeur croate d'une appli qui va rajouter des licornes magiques à la fin de vos mails, qui va avoir le droit, non mais monsieur, soyons un petit peu sérieux, le droit de lire les Gmail. Donc tout ça est trié sur le volet, nous faisons des contrôles. On sent que Google là, a appris effectivement de ce qui est arrivé à Facebook et très vite essaye de construire un pare-feu en disant « Attendez, on contrôle la situation ». Oui, bien sûr, des développeurs tiers, et c'est comme ça que Gmail progresse, patati patata, on donne des autorisations, mais sachez quand même, monsieur, que nous contrôlons la situation, nous savons qu'il y a le droit, nous faisons des contrôles réguliers, c'est un peu ce qu'avait omis de dire Facebook, et surtout qu'il avait fait un gros fail dans leur contrôle et dans leur manière de contrôler. Vous voyez, on va voir comment cette situation va se dérouler. Mais on va avoir exactement le même cas de figure que Facebook. Dans l'affaire de Facebook, ce n'était pas finalement Facebook le point central du problème, mais c'était plutôt les autorisations que Facebook avait données, il ne donnait plus d'ailleurs, mais avait données à des développeurs tiers, qu'ils avaient un manque de contrôle, en fait, sur ce que faisaient ces développeurs tiers. Donc, c'est un peu des scandales en trois bandes. C'est parce que une des sociétés tierces va taper dans ta base de données et dans ta collecte de data que tu vas avoir un problème, en fait. Facebook a débloqué 800... Oui, bah Facebook, il cumule, hein, un petit peu en ce moment. Hein. Il y a un moment où Oh, à la limite, ils font peut-être exprès de sortir toute leur merde là en ce moment, toutes les vieilles affaires qui traînaient. Il y a le mec des RP qui dit, bon les gars, de toute façon, on est dans un shitstorm. Allons-y, on va balancer les vieux dossiers, comme ça passera, tout le monde aura oublié. Hein, et puis voilà. Lire les clauses d'utilisation avant de faire avant. Mais mon bon monsieur Nouba, mais plus personne ne lit tout ça. Hein, on essaye de cliquer le plus vite possible sur les autorisations. Et puis après, on s'offusque, on dit, mais je n'ai jamais donné une approbation pour faire ceci ou cela, monsieur. Jamais. Ah, si, peut-être quand j'ai cliqué super vite pour installer le truc qui rajoute des licornes sur mes emails. Ouais, faudrait peut-être qu'on ait un petit peu d'éducation. Et c'est pour ça que dans tout mal, il y a un bien. Et dans toutes ces histoires qui explosent, on va peut-être commencer, et moi le premier hein, d'ailleurs, hein, je me mets dans le panier hein, de ceux qui ont cliqué un peu vite sur des autorisations, à regarder peut-être un petit peu plus en détail ce que je permets à chacune des apps que j'installe de faire avec mon bazar. Et quand je lirai la ligne que vous avez peut-être tous lue inconsciemment, j'autorise telle ou telle app à lire mes mails Gmail, peut-être faire est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter des licornes à la fin de mes mails? Je veux le nom des trucs des licornes, maintenant, à force, ça m'a chauffé. Bon, si vous voulez, voilà, je vous ai donné une idée de développement, il faut lancer le licorne-me qui va ajouter des licornes à la fin de chacun des mails. Alors, après, je vais vous dire dans l'absolu, en fait, le problème de lire mes mails, c'est pas tant pour moi un problème de vie privée. Parce qu'honnêtement, j'essaie de réfléchir, est-ce que je partage beaucoup d'infos vie privée dans mes mails? Après, il y aurait des infos un peu embêtantes. Adresse, numéro de téléphone, voilà. Mais c'est plus si j'étais une grosse société ou une start-up qui m'apprêtait à lancer un truc révolutionnaire sur le signage licorne, c'est plus l'espionnage industriel qui me ferait peur en tant que société. Et c'est vrai, alors, je dois reconnaître, pour des questions de coût, on utilise Gmail pour Nowtech, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je change. Maintenant, l'espionnage industriel de mes vidéos, permettez-moi de vous dire que je m'en tape un petit peu le coquillard. Mais bon. Oui, mais moi, ma femme habite à 10 000 km de chez moi et du coup, on s'échange des photos. Ah, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, peut-être déménager. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Internet n'est certainement pas le meilleur endroit pour échanger des photos coquines. Après, tu peux essayer peut-être des solutions de mail qui sont mieux protégées. Il en existe. J'ai pas de référence de système de mail mieux protégé, mais il y en a. En tant que société, il faut être con pour utiliser Gmail. Bon, je te l'accorde, je suis un peu con. Toutes ces applis ne peuvent pas faire cette demande. On a des exemples d'applis qui utilisent cette autorisation. Écoute, tu en trouveras dans les articles. J'avoue que j'en ai pas là à te donner, mais il y a beaucoup d'articles sur cette histoire aujourd'hui. ProtonMail, ouais, je crois que c'est quelque chose. Enfin, ProtonMail, ils se sont pris une grosse attaque des DDoS récemment. Mais ProtonMail fait partie, effectivement, des systèmes de mail assez sécurs. Tu vois pas le problème si tu t'appelles pas Dassault Aviation. Bah, tout le problème, c'est l'opacité de ces business-là, en fait. C'est pas tellement les data, parce que. Et encore une fois, on va retomber dans le vieux débat. Moi, j'ai rien à cacher, donc je m'en fous. Non, c'est pas parce que t'as rien à cacher qu'il faut en avoir rien à foutre du fait que nos datas soient ouvertes comme des livres à tout le monde. on rentre quand même dans un monde où, après une grande période de naïveté sur le data, on est en droit de savoir un petit peu plus quand même ce que les sociétés font avec ce data, puisque quelque part, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vous conseille de voir les choses. Vous payez avec votre data. Et quelque part, vous avez le droit de demander l'usage qui est fait et qui est accordé à des sociétés tierces des informations avec lesquelles vous payez ces services. Vous êtes en droit de le demander. Au même titre que des bases de données marketing collectent du data sur vous, pas que sur Internet, on devrait, moi je pense en tout cas, c'est ma vision du monde, que ok, mais je suis en droit de demander ce qui est fait exactement avec ces données. Après, encore une fois, bien sûr que ce n'est pas des données personnelles au sens où ce n'est pas une fiche avec votre nom dessus. Parce que ça, le marketing n'en a rien à faire de votre nom et de votre vraie identité. C'est vos comportements qui les intéressent. Il faut comprendre que le fantasme absolu de quelqu'un qui travaille dans le marketing sur le comportement des utilisateurs, c'est de vous coller une caméra sur le front ou dans vos lunettes. Une caméra sur le front et de regarder toute la journée ce que vous faites et les comportements que vous avez. C'est ça qui a de la valeur. C'est pas vous. Je suis désolé de vous le dire, hein, je vais en vexer certains, mais vous n'avez aucune valeur en tant qu'individu. Vous ne valez rien, mais rien du tout aux yeux du marketing. Par contre, la manière dont vous vivez, la manière dont vous consommez, ce que vous faites dans la journée, vos interactions avec les autres, c'est ça qui a de la valeur, en fait. Mais il faut le comprendre, ça. Et ça reste dangereux, parce qu'après, le marketing n'a pas besoin de votre identité, mais après, on sait que d'autres peuvent très facilement coller votre identité à des bases de données comportementales, genre des états. Allez, on continue parce que sinon on va passer de toute façon, je pense qu'il va y avoir d'autres onglets sur cette histoire. Ça va être intéressant de voir comment Google s'en sort. Est-ce qu'ils s'en sortent mieux en termes de com que c'en est que Facebook il y a quelques mois? Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire à la Facebook qui arrive. Allez, on continue et parlons un petit peu du laser chinois, le fameux AK-47 laser chinois. Effectivement, on l'appelle l'AK-47 parce que quand on voit le visuel du gun, pour ceux qui s'y connaissent en gun, ça fait penser à un AK-47. De sources chinoises, on aurait appris qu'il s'apprêtait à industrialiser un laser portable. Une nouvelle arme qui serait non létale. Non, non, ça tue pas. Ça fait très très mal, mais ça tue pas. Elle serait nommée le ZK-ZM5000. On dirait un nom de smartphone Sony, tellement c'est imbitable. ZK-ZM500. On dit que c'est une arme de calibre de 15 mm, ce qui ne veut pas dire grand-chose quand c'est un laser, ayant une portée de 800 mètres et ne pesant que 3 grammes, grosso merdo, le poids du célèbre AK-47. Oui, donc c'est le poids que... Moi, je ne m'y connais pas en gun. C'est le poids, c'est pas la forme qui a fait penser à l'AK-47. Putain, ils sont bons, hein, les journalistes. Hein. Moi, je ne connais pas le poids des armes, hein. L'article estime que cette prouesse a été rendue possible par un investissement massif de la Chine dans la recherche autour du laser pour la défense. On parle de 2 milliards de dollars. Au niveau application, cette arme serait non létale, pas destinée effectivement à tuer, mais aurait la capacité de percer les vêtements et de brûler la peau jusqu'à une douleur insoutenable. Elle pourrait aussi faire prendre par exemple feu à des cheveux de quelqu'un à 800 mètres. Elle pourrait faire prendre feu à des matières inflammables. Le laser est invisible, donc c'est pas un pistolet laser qui fait piou piou avec des raies de lumière qui sort. Non, c'est encore pire. C'est que le rayon serait invisible, le laser utilisé ne se voit pas. Il pourrait, par exemple, dans le cas des contrôles des manifestations, et on sait que les Chinois travaillent beaucoup sur ces technologies-là, hein, sur le contrôle des manifestations, il pourrait brûler des pancartes à distance des cheveux de leaders afin qu'ils soient effrayés et perdent le fil de leur discours. Et même si le laboratoire reconnaît que ça pourrait laisser des cicatrices permanentes et horribles qui effrayeraient les populations et pourraient transformer les manifestations en émeutes, c'est pas destiné à tuer. Ah ben, on est rassuré, hein, là, tout de suite. Ah ben, c'est bon, ouais, c'est pas létal. Bon, ok, ça va juste nous cramer la gueule, quoi. Et puis, c'est juste pour des manifestants, hein. C'est ces espèces de gauchistes, hein, qui font chier, là, hein, avec leurs revendications à la con. Non, mais oh, on va leur faire cramer les cheveux, hein, ils vont moins rigoler. Voilà, c'est ce qui se dit, en tout cas, dans les couloirs des scientifiques chinois qui auraient mis au point cette arme. Oui, mais est-ce que cette arme existe vraiment? Vraiment? Il y a des gros doutes. Il y a des gros, gros doutes. La Chine gauchiste, ouais, tu te rends compte, en plus, les gauchistes en Chine. Putain. Oui, en Chine, manifestement, c'est plutôt un droitiste. Oui, t'as raison, Oleg, effectivement. Il n'y a pas que les gauchistes qui défilent. Oh, désolé, oh là là, j'en ai froissé certains. Non, tout le monde a le droit de manifester. Et tout le monde devrait d'ailleurs manifester quand ils ne sont pas contents. Enfin, avec modération, j'ai envie de dire, et avec des vraies raisons. Mais bon, c'est un autre débat dans lequel je ne m'avancerai pas parce que ça risque de me brûler beaucoup plus qu'un AK-40, 47 laser, je ne sais pas quoi. Bref. Venez manifester avec moi au MEDEF. Les manifestations du MEDEF, c'est terrible. Quand le MEDEF se met à manifester, là, rentrez chez vous. Hein. Rentrez chez vous, planquez les enfants. Bref. Donc, ce fusil serait prêt à rentrer en production de masse, c'est ce qu'on nous dit. Il y a de très, très gros doutes sur est-ce que cette arme existe vraiment. Les scientifiques qui travaillent sur les lasers en Occident disent que une batterie type batterie de smartphone pour alimenter un laser, déjà, super limite, hein, on ne sait pas trop faire. En plus, avoir une portée de 800 mètres et brûler un truc à 800 mètres, faut un putain de laser qu'on n'a pas vraiment, parce que un laser, ça reste une lumière, et à 800 mètres, votre faisceau, il n'est pas comme ça, hein, il est déjà un petit peu dispersé. Alors, oui, vous allez me dire, dans les usines, on arrive à couper des trucs au laser. Ouais, faut savoir que c'est plutôt des torches au plasma, et que le laser arrive à découper, mais sur des distances, enfin, des épaisseurs très courtes, justement. Et que, alors, il y a un scientifique français qui travaille sur ces sujets au niveau de la défense, qui a demandé à rester anonyme, tant mieux pour lui, et qui dit, oui, mais faire un laser qui permet de balancer un rayon, ça on sait faire, mais il donne l'exemple du laser russe. Les Russes qui ont dit, nous on a un laser qui peut toucher les satellites américains dans l'espace. Ben, il dit, oui, les Russes ont un laser qui peut toucher les satellites russes dans l'espace, les satellites américains, ou n'importe qui d'ailleurs, les satellites de tout le monde, dans l'espace. Oui, mais ils peuvent juste les toucher. On ne sait pas bien ce que ce laser est capable de faire au niveau. Donc, faire un laser qui a une portée de 800 mètres, oui. Est-ce qu'il est capable de... Alors, il dit, oui, ça peut faire du dégât, oui, ça peut brûler, ça peut... Mais... est-ce que c'est vraiment... enfin, est-ce que ça peut faire prendre du... dis, j'ai des forts doutes, quand même. Alors, peut-être hein, que les Chinois ont effectivement trouvé une technologie qu'on ne connaît pas, mais les Américains, par exemple, qui sont plutôt en avance sur les recherches autour du laser, par exemple, ils disent, nous, on ne sait pas faire. Hein. On est honnête, les gars, on ne sait pas faire ça. Scientifiques concluent sur la réalité de nos équipements laser actuels. On utilise des lasers dans l'industrie automobile pour découper et souder des métaux. Et même dans ce contexte très maîtrisé, où on peut aider l'effet brûlant du laser par un flux d'oxygène additionnel. Donc déjà, il faut balancer un flux d'oxygène en plus du laser. On ne parvient pas à découper au-delà du centimètre d'épaisseur. Pour des matériaux plus épais, il faut d'autres techniques comme la torche plasma. Il est donc illusoire d'espérer parvenir à la découpe des cibles à distance à travers l'atmosphère des fortes perturbations et atténuations qu'elles entraînent sur un faisceau laser, de surcroît sur une cible non coopérative. Donc, pour résumer, il dit, si on veut vraiment découper un manifestant à distance, hein, il faut que le mec il se tienne bien droit, que l'air soit complètement, qu'on soit dans un milieu complètement stérile, pas d'interférence, etc. Que le mec ne bouge pas, et on y va doucement et on lui injecte un flux d'oxygène dans la gueule. Hein. Jérôme, c'est moi ou tu n'as pas tout compris ce que tu as lu? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ça, j'admets tout à fait, hein, j'ai peut-être fait une erreur. Si tu tires et que ça passe par une goutte d'eau, tu as ton faisceau qui va être dévié. Bon courage pour toucher quoi que ce soit. Oui. Bah, laser, a priori, après, je sais pas, hein, mais on peut se demander s'ils auraient pas mieux fait de travailler sur une grosse loupe, hein, pour brûler. AK-47, Kalachnikov, 3 kilos, pas 3 grammes. Mais j'ai pas dit 3 grammes, hein, c'est Oleg qui a dit 3 grammes. Je crois. Hein. C'est quand on parlait au début de l'article, et moi j'ai dit une portée de 800 mètres et ne pesant que 3 kilos. Grosso merdo, le poids du célèbre AK-47. Et ok, je savais pas que l'AK-47 c'était une Kalachnikov. Désolé les mecs, je suis pas très bon en armes, quoi. J'ai dit 3 grammes, bon ben désolé. C'est vrai qu'un pistolet de 3 grammes, c'est... Oh, merde, il y a eu un coup de vent, j'ai perdu mon AK-47. Oui, une grosse loupe pour brûler avec du soleil, je pense que ça serait plus performant en fait. Hein. Mais c'est normal que ce genre... franchement, vous voulez faire un article. Vous voulez qu'on clique sur l'article, vous mettez chinois, arme laser. Hein, ça, vous aurez autant de clics si vous mettez Star Hollywood mal vieilli. Voilà, c'est exactement ce type d'article. Vous mettez chinois, pistolet laser, ça clique nickel. Et en fait, c'est ce que la conclusion quand même que donne le journaliste de cet article et qui est intéressante. En fait, il dit les armes laser, c'est surtout une bataille de communication des différentes défenses nationales. C'est un peu dire, ouais, ouais, nous, on a quoi. On ne sait pas bien ce que ça fait, mais sachez qu'on a un laser. Voilà. J'ai un copain qui m'en a parlé. Il avait l'air très convaincu de la réalité de ce pistolet laser. Ben, moi, pareil, j'ai l'oncle d'un copain qui dit que c'est probablement vrai. N'empêche, un bon vieux 7,62 dans la... 7,62, je sais pas comment on dit dans la tronche du convenant, hein, ça a fait ses preuves. Moi, je dis, ouais, une bonne balle dans la gueule, hein. Mais vous savez, cette communication, on dit, hein, on dit beaucoup que c'est Reagan, quand il a parlé de Star Wars, qui a gagné la guerre froide, enfin, qui aurait permis... d'une certaine façon, de faire fléchir la guerre froide dans la faveur des États-Unis, parce que en disant « Ah ouais, ouais, nous, on va balancer des lasers antimissiles dans l'espace dans un programme qui s'appelle Star Wars », les Russes ont jeté l'éponge, parce qu'ils ont dit « Putain, ça va être trop cher, quoi. On va pas y arriver. » Vous savez, hein, c'est des batailles de communication, hein. Tant qu'il n'y a pas de démonstration, j'y crois pas. Oui, mais la démonstration sera peut-être un fake. Disons qu'on dit que ça a contribué à la chute de l'URSS. C'est certainement pas le seul facteur. Mais vu que la guerre froide s'est finalement terminée par une espèce de course à l'armement et surtout à l'investissement, Reagan aurait, est-ce qu'il l'avait improvisé, comme le disent certains, aurait finalement joué le dernier coup de la dernière fois en disant, en gros, nous, on a plus d'argent que vous, donc on trouvera toujours des armes plus puissantes que les vôtres, quoi. C'est pas une arme sonique. Peut-être. Bref, on va. Peut-être qu'on se trompe complètement. Hein. Peut-être qu'on se moque, mais que l'armée chinoise va arriver avec des pistolets laser et qu'on va être comme ça. On verra. Et sinon, le focus, ça va, je suis encore dans l'article, quand même. Juste, j'extrapole un petit peu sur Reagan. Allez, on continue et on va parler de Greenpeace. Greenpeace qui a fait, c'est leur spécialité, hein, un coup d'éclat. Ils sont quand même très bons en opération de communication. L'ONG Greenpeace milite notamment sur pas mal de choses, mais notamment sur la vulnérabilité de nos systèmes nucléaires, d'énergie nucléaire, et notamment la vulnérabilité des centrales nucléaires qui peuplent notre belle campagne française, puisque de la centrale en France, c'est pas ce qui manque. Bon. Pour démontrer la vulnérabilité aux attaques, notamment aux attaques terroristes, des centrales nucléaires, Greenpeace a pris un drone et ils ont accroché un mannequin de Superman au drone. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Et ils l'ont balancé alors très exactement dans le mur de la piscine d'entreposage du combustible usé qui est accolé au réacteur 2. De la centrale, donc du Bugey, si je le dis bien. Non, c'était bien un Superman, pas un Batman. C'est une information essentielle. Je corrige si je me suis trompé. C'est bien Superman qu'ils ont crashé dans une centrale nucléaire. Ils l'ont filmé d'ailleurs, cette intervention, en la filmant avec un autre drone. Donc, ils ont montré la double vulnérabilité, c'est que non seulement ils ont réussi à crasher un drone, mais ils ont filmé le tout en balançant un autre drone dans la zone sans que les drones aient été descendus ou quoi que ce soit. Donc, je vous montre la vidéo. Je prends pas forcément opinion là-dessus. Greenpeace, pour moi, ont des moyens qui Bref. C'est des bons communicants. Voilà. Alors là, on ne le voit pas très bien parce qu'en plus, vous avez une résolution de merde. Mais là, on voit la caméra, effectivement, du drone. Et donc, ils sont dirigés, vous voyez là, ça, c'est le mur de la piscine. Là, on voit le Superman. Vous voyez qu'il vole. On le voit et pouf, là il s'est écrasé comme une merde. Comme une merde sur le mur. Donc bah déjà c'est terrible pour Superman. Hein. L'image est assez terrifiante. On voit Superman s'écraser comme une merde, mais vraiment comme une merde contre un mur. Vraiment, Superman n'est plus ce qu'il était. Hein, ça, c'est première, effectivement, déception. Il n'a pas traversé le mur comme on pourrait s'y attendre. Ils sont contre-productifs en démontrant à des terroristes que c'est possible de le faire. Je ne pense pas que les terroristes aient vraiment besoin de Greenpeace pour connaître les vulnérabilités. Les centrales résistent à la chute d'un avion dont Greenpeace n'a rien démontré. Tu sais, en même temps, je vais te dire un truc. Un terroriste balance un avion sur une centrale, même si ça ne crée pas d'autres dégâts que l'avion, le choc psychologique serait énorme. Et n'oublie pas que le terrorisme ne consiste pas. Alors, je vais dire un truc qui va peut-être en choquer certains, mais il faut bien comprendre, à mon avis, un truc sur le terrorisme. C'est pas de tuer des gens qui leur importe. C'est le chiffre de gens qu'ils arrivent à tuer parce que c'est ça qui va créer la terreur. Et ils savent aussi que la terreur, ça peut juste être un coup de com'. Et d'arriver à cracher quelque chose dans une centrale nucléaire, créer un coup de com' suffisant. Oui, en plus, après, j'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Je pense qu'il y a avion et avion. Si tu écrases un avion, effectivement, comme certains le disent, de tourisme dans une centrale nucléaire, ça lui fera rien. Si tu crashes un avion de ligne chargé de carburant, je sais pas. Hein. Honnêtement, je suis pas un spécialiste de la question. Les centrales résistent, mais pas les piscines apparemment. Merci Tic-Tac-Omi pour cette précision. C'est justement effectivement une des choses que voulait dénoncer Greenpeace, c'est que les piscines d'entreposage de combustible usé sont très facilement accessibles par la voie aérienne et donc éminemment vulnérables au risque d'attaque extérieure. Et je vous rappelle que ces piscines, c'est pas pour le personnel, pour qu'ils puissent faire bronzette et faire des longueurs. C'est des piscines dans lesquelles on entrepose les déchets nucléaires. Or, un déchet nucléaire, c'est pas comme un papier chewing-gum. Hein. Un déchet nucléaire, c'est dangereux. Donc voilà. Moi, je voulais juste vous apporter l'info. Je vais pas trop donner mon opinion là-dessus, sur les performances de Greenpeace. On ne peut que reconnaître une chose, c'est que Greenpeace sait faire parler d'eux. Ça, c'est clair. Eux, ils disent que ce n'est pas les piscines pour refroidir, c'est les piscines où il y a les déchets. Hein. Après, c'est peut-être l'article. C'est un article de Science et Avenir. Donc, allez taper sur Science et Avenir, c'est l'article est faux, hein, pas sur moi. Hein. Alors, à nouveau, il n'y a eu aucune réaction ni de la part de la protection du site EDF, ni de la part de la protection aérienne des ports Greenpeace. En effet, aucun des aéronefs n'a été intercepté. Seuls les débris de Superman et de l'avion radiocommandé ont pu être collectés au pied du mur de la piscine d'entreposage de combustible usé. Voilà. Je vous lis ce qui est écrit dans Science et Avenir. T'as pas de risque d'emballement dans les piscines à déchets. Ouais, mais encore une fois, hein, encore une fois, la dangerosité, ne voyez pas que le côté Tchernobyl dans les dangers autour d'une centrale. N'oubliez pas que le terrorisme, c'est des coups de com'. C'est ça qui est important. Excusez-moi, je sentais cet éternuement arriver depuis le début de l'émission, il fallait que ça sorte. Oui, je ne suis pas un professionnel. Un vrai professionnel de la télé n'aurait pas éternué. Il aurait éternué de l'intérieur, du coup il aurait lâché une grosse caisse, mais moi je ne suis pas un professionnel. Il y a quand même un risque de contamination du milieu naturel aux abords de la centrale, même si ça ne peut pas déclencher une réaction en chaîne. Bref. Bon, je vois que le sujet, effectivement, provoque de grands débats dans la chatroom. Tant mieux. Il aurait fait une rupture d'anévrisme en direct. On rigole pas avec ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et un éternuement et une rupture d'anévrisme. Parlons un petit peu hein, d'un truc hyper grave. Non, mais honnêtement, c'est assez... Enfin, c'est pas grave, mais il faut que vous soyez au courant. Et Techscope est une émission qui dénonce. Et il n'y a pas que nous qui dénonçons, des influenceurs dénoncent les faux influenceurs. Vous êtes peut-être certains à avoir vu la vidéo de notre ami Guillaume Ruchon, La vérité sur les influenceurs fake, qui explique et qui déboulonne effectivement un certain nombre d'influenceurs, notamment sur Instagram, en montrant, grâce à, effectivement à des logiciels, ce que c'est qu'un faux compte, les indices qui permettent de détecter ce que serait un faux compte Instagram, un faux influenceur, à différencier d'un vrai influenceur. Ce qui est d'une pratique pas si facile que ça et qui demande un petit peu de jugeote. Alors, avant de rentrer là-dedans, vous vous dites peut-être, mais quel intérêt qu'il y ait des faux influenceurs ? Ben, l'intérêt, c'est qu'il y a un business. Il y a un véritable business, et c'est de ce dont on vous parle peut-être pas assez, mais moi, je vous le dis. Aujourd'hui, et c'est vrai qu'Instagram a vraiment le vent en poupe, beaucoup de marques s'associent à des influenceurs pour promouvoir des produits. C'est une forme de publicité très efficace. Il faut comprendre que quelque part, pourquoi on parle autant d'influenceurs, moi aussi, hein, je déteste le mot, mais pourquoi ça intéresse autant les marques, c'est parce que finalement, l'influenceur est une forme améliorée de bouche à oreille. Et vous le savez depuis que vous êtes tout petit, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Quand quelqu'un de confiance vous recommande un produit, vous êtes, j'avais d'ailleurs à une époque des chiffres sur les études, mais l'efficacité du bouche à oreille est énorme par rapport à la publicité. Quand une marque vous met sur une affiche les licornes, c'est bon, mangez-en, vous allez déclencher du comportement d'achat sur un faible pourcentage de la population. Si maintenant, quelqu'un de confiance que vous écoutez par exemple tous les matins dans une émission, auquel vous accordez pas mal de crédit, parce qu'il sait de quoi il parle, qui vous dit, vous ne le saviez peut-être pas, mais la viande de licorne, c'est une des meilleures viandes au monde. Et elle est compatible avec les véganes également. Puisque les licornes n'existent pas, en fait, tu ne manges pas vraiment de la viande. Donc, c'est la meilleure viande du monde. C'est ça que vous devriez acheter, c'est ça que vous devriez manger. En plus, elle permet de faire un régime quand on mange. Plus t'en manges, plus tu maigris. Voilà. Donc là, vous avez tous envie de manger de la viande de licorne. Sauf Kaline qui pleure sur les licornes mortes. Mais en fait, elle ne meurt pas vraiment. En fait, la licorne, quand tu découpes un steak, le steak repousse. C'est la magie des licornes. Alors, pour acheter de la viande de licorne, vous devrez faire une contribution sur Tipeee, sur le Tipeee de l'Intech. Et je vous enverrai par la poste magique Harry Potter votre viande de licorne. Je suis le distributeur exclusif de la viande de licorne en France. Et Samuel qui met le lien vers le Tipeee Nowtech. Je suis pas crédible. Comment ça, je suis pas crédible? On me croit pas? Bon, je reviens peut-être un petit peu dans le sujet. Les liens dans la description. Tout ça pour comprendre qu'effectivement, l'influenceur vous influence. Et vous ne croyez pas, mais en fait, on vous influence. Et quand on teste un produit, quand je vous montre quelque chose sur Instagram, même quand je vous montre un restaurant sur Instagram, ça a une influence. Ça a une influence, que je le veuille ou non d'ailleurs, mais ça a une influence. Et cette influence, elle vaut de l'argent, voire même de l'or. Et aujourd'hui, beaucoup de marques demandent à leurs agences de publicité de leur faire des campagnes sur Instagram de promotion de leurs produits. Et c'est relativement bien payé. D'ailleurs, Guillaume Rochon ne parle pas des prix, hein, mais ça peut être relativement payé. Hein. Il y a des campagnes, on va dire que ça peut aller de 500 à 5000 à 10 000 euros, une campagne pour un influenceur. Ça dépend effectivement de son nombre de followers. Ça dépend du nombre d'interactions aussi, parce que les agences ne sont pas bêtes. Ils disent, ouais, on sait qu'il y a des faux influenceurs qui ont acheté plein de followers. Donc, ce n'est pas le nombre de followers, c'est le nombre de likes. Ouais, mais coco, les likes, ça s'achète aussi. Il y a plein de choses qui s'achètent. Les vues sur YouTube, ça s'achète. Tout s'achète aujourd'hui. Il y a un véritable business du trafic d'influence, en fait. Et ça a donné l'idée à quelques petits malins sur Instagram de toucher cet argent en se créant des profils, en les gonflant par divers moyens. Et ils sont malins, ils se planquent bien, ils mélangent du vrai et de la fausse influence. En s'achetant régulièrement des faux followers. Mais maintenant, alors le vieux truc, t'achètes des followers, mais ils sont tous chinois, ou ils viennent tous des pays du Maghreb, ou ce genre de truc. Maintenant, tu peux acheter du follower français, du bon follower français, hein, élevé à la campagne au bon grain. Du follower certifié, du follower avec des photos, et qui dit des choses, et qui va réagir à tes photos. Il faut savoir également, et c'est ce qu'explique d'ailleurs Guillaume, je crois, dans sa vidéo, qu'ils s'aident entre eux. En parlant de ces influenceurs entre eux, il y en a un qui va relayer ou qui va liker la photo de l'autre, etc. Ils font des vraies fermes, en fait, pour faire gonfler les comptes. Une op Twitch pour une pub G-mobile 20K. Bah ouais, si le mec est très très suivi, voilà. Et le truc, c'est que moi, je vais vous dire le fond de ma pensée sur toute cette affaire. Déjà, au niveau de votre hygiène numérique par rapport aux influenceurs, enfin, franchement, un fake, moi, j'ai pas besoin d'un logiciel pour le détecter. Peut-être au début, mais c'est plutôt à long terme. En gros, moi, et je le reconnais, il y a des gens qui ont de l'influence sur moi. Mais c'est des gens que je suis depuis longtemps. J'ai confiance en leur contenu. Je sais que quand ils me parlent, ils savent ce qu'ils disent, qu'ils ont étudié le sujet. Et qui sont, même dans le cadre où ils sont payés par une marque pour faire une vidéo sponsor, soit ils me l'ont dit de manière claire, soit ils sont assez clairs sur leur rapport avec la marque. Donc ça me permet de juger. En gros, moi, j'ai personne. Enfin, je ne me fais pas influencer par quelqu'un que je découvre le jour même. Voilà. Alors, Guillaume, il faut savoir que Guillaume est un des faux influenceurs, Guillaume Slash, des faux influenceurs les plus sophistiqués de France. En fait, Guillaume Slash est un robot recouvert de latex commandé par une usine chinoise. Hein, il fait des vidéos, elles sont très crédibles, c'est très bien fait. Et d'ailleurs, il a aidé à la mise au point du laser chinois dont je vous parlais précédemment. Vous ne le saviez pas, mais moi je dénonce, je balance. Bref. Après, ce que j'ai à dire là-dessus, je pense, ça va peut-être vous choquer, mais je pense que ce business des influenceurs est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un bon média publicitaire. Oui, c'est à mi-chemin entre le journalisme et la publicité. C'est du publi rédactionnel, hein. On va pas se cacher derrière une licorne, hein, pour parler de ça. Ça explique pourquoi Guillaume Slash n'a pas de barbe. Exactement. Exactement, ils ne sont pas arrivés à faire une barbe synthétique crédible. Mais la tête est moyennement réussie, hein, je trouve. Si on regarde bien Guillaume Slash, on se dit... ça fait un peu Westworld, quand même. Un petit peu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Guillaume est là, mais... Faites-le taire! Ah, moi j'ai une tête complètement crédible. Il n'y a pas un ingénieur qui déciderait une tête pareille. Bref, arrêtez d'essayer de me faire sortir du sujet. C'est sérieux là ce que je vous dis. Hein? Arrêtez de vous faire influencer par des faux influenceurs. Prenez des gens qui sont très peu followés. Au moins vous êtes sûr qu'ils n'ont pas triché. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui je pense que. Le business des influenceurs n'est pas une mauvaise chose. Je m'expliquerai peut-être plus longuement là-dessus une autre fois. Qu'aujourd'hui, construire une communauté, c'est quelque chose de difficile. Une vraie communauté, c'est quelque chose de difficile. Et du coup, c'est normal qu'il y ait la tentation, pour certains qui veulent prendre des raccourcis dans la vie, de monter des faux comptes. Et du coup, de gagner de l'argent facile. Je pense que le problème, il est plus, c'est un problème de société, le mythe de l'argent facile et les possibilités de faire de l'argent facilement. C'est trop tentant. Et effectivement, c'est trop tentant. Je pense que les principaux coupables dans cette histoire sont plutôt les agences et quelque part les annonceurs. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la flemme, qu'elles travaillent trop vite, que les annonceurs leur demandent de travailler trop vite et qu'elles ne prennent pas le temps minimum nécessaire pour vérifier les influenceurs qu'elles arrosent. Les faux comptes font des faux amis. Nous sommes un business, mais vous avez toujours été un business. Bah, faux. Alors, certains me demandent, mais en quoi ils sont faux? Ils sont faux parce que leur notoriété, elle est construite sur des fermes de followers, sur des followers qui ne sont pas des gens. Les likes qu'ils ont sur leurs photos ne sont pas des vrais likes, ils n'ont pas eu une vraie approbation d'une vraie communauté. Et du coup, ils vendent à une entreprise, à une agence, peut-être d'ailleurs votre entreprise, à payer très très cher une campagne de publicité basée sur quelque chose de faux. Donc elle s'est fait tromper. Il y a eu une tromperie sur la marchandise. Pourquoi? Parce qu'au final, une campagne de publicité payée très cher à un faux influenceur ne marche pas comme campagne. Puisque derrière, c'est des faux followers. Donc c'est un faux produit. Il faut comprendre qu'une campagne... Alors, je vais réexpliquer tout le processus, mais quand un annonceur se paye une campagne de pub, ça ne s'arrête pas là. S'il fait de la pub, c'est parce qu'il espère vendre des choses derrière. Et ouais, en train de vous démonter tous les mécanismes complexes du commerce. Hein. 8h56, oui, j'ai presque fini. C'est une perte sèche pour une entreprise qui paye une campagne qui n'atteint pas ses objectifs, qui ne génère pas de vente. Donc oui, c'est assez grave. C'est comme si on te vendait une bagnole, qu'on disait ah non, mais on a c'est un faux moteur. Hein, non, hein, ça ne marche pas. Bref, on en reparlera si vous voulez. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Guillaume Ruchon. Elle est assez intéressante. Il explique justement les méthodes en étudiant les courbes qui vous permettront de détecter assez et les techniques de ces faux influenceurs. Qu'est-ce que tu entends par faux moteur? Allez, on termine. On termine rapidement. Vous avez déjà vu cet appareil photo étrange de chez Light qui ressemble à un œil de mouche écrasé contre le mur qui avait 16 objectifs. Les résultats sont en demi-teinte, mais on va dire que c'est un peu le proto qui est le premier qu'ils ont sorti. Mais tout ça pour dire, ils seraient en train de travailler sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire un smartphone qui n'aurait pas 16 objectifs, mais déjà 9 objectifs. 9 objectifs, alors 9 objectifs, vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, 9 objectifs, ça permet de travailler sur différentes longueurs focales. En croisant les résultats de tous ces objectifs, on arrive à des performances, en tout cas en théorie sur le papier, on arrive à des performances qui, je vous dis souvent, ce que je vous disais il y a un an, c'est que jamais un smartphone n'arriverait à la qualité d'un réflexe. Pourquoi? Parce que les lois optiques sont en théorie incontournables. Pour obtenir une certaine ouverture, une certaine qualité optique, il faut des objectifs qui sont gros, hein, avec beaucoup de verre dessus. C'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, avec les progrès, effectivement, de l'informatique, on arrive à, en recoupant les informations de plusieurs petits objectifs, à avoir des résultats, par stitching d'images, notamment, à avoir des résultats qui s'approcheraient assez fidèlement de vraies qualités optiques, d'une optique photo. Et c'est dans ce sens-là, notamment pour tout ce qui est photo en basse luminosité, faible profondeur de champ, etc. Ça permet effectivement de collecter finalement beaucoup de data visuelle et par recoupement de produire des types de photos qui pour l'instant ne sont pas possibles avec les tout petits objectifs et les tout petits capteurs de nos smartphones actuels. Le truc qu'on peut quand même se demander, c'est est-ce qu'ils font... Enfin, aujourd'hui, il y a deux théories qui s'affrontent. Quelque part, il y a Google et les autres. Les autres, c'est Apple, c'est Samsung, qui en gros sont plutôt sur la tendance « je vous mets plusieurs objectifs pour agrandir en fait les possibilités photo de votre smartphone et in fine, peut-être, avec des technologies type Light, vous donner des performances pour l'instant impossibles sur un smartphone ». Et d'un autre côté, vous avez Google, notamment avec ses pixels, qui vous dit « Kennedy, nous, vous nous donnez un seul objectif, et grâce à la puissance de notre machine et de notre intelligence artificielle et de notre capacité à extrapoler des données, de données visuelles données par un capteur, de produire le même type d'effet sans avoir à multiplier physiquement le nombre d'objectifs. » Et il donne comme preuve que les Google Pixel ont des effets de faible profondeur de champ, donc de bokeh, de faux bokeh, qui sont assez convaincants, et pourtant ils n'ont qu'un seul objectif. Ils ne sont pas du tout comme Samsung ou l'iPhone, qui va calculer la distance entre deux objectifs pour donner un 3D mapping de l'image, pour vous dire ça c'est le fond, ça c'est le devant, ça c'est le sujet, et simuler des faibles profondeurs de champ. Là, tous ceux qui comprendraient en photo se sont endormis, donc je ne vais pas m'étendre plus. C'est juste pour dire, ne soyez pas étonnés si on voit débarquer l'année prochaine un smartphone avec 9 objectifs photo. Et si vous vous dites, mais à quoi ça sert 9 objectifs photo, rappelez-vous que Jérôme m'en avait parlé vaguement un matin, j'ai rien compris, mais il avait dit que c'était peut-être utile. Ouais, ok. Voilà. Il est 9h01. Bruce est endormi. Il est temps de conclure cette émission. On a les influenceurs qu'on mérite. Bah, là où tu n'as pas tort, Whittel, je reviens juste rapidement sur les influenceurs. C'est vous, in fine, qui choisissez qui vous suivez, qui vous écoutez et les recommandations des gens qui vous intéressent. Et exactement comme les vidéos YouTube, c'est vous qui créez YouTube par vos vues. Une vue, un vote. Un follow, un vote. C'est vous qui créez l'Internet d'aujourd'hui. C'est toi qui crée l'Internet d'aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre qu'il n'y a que de la merde sur YouTube si vous regardez cette merde. Si vous arrêtiez de regarder de la merde, il y aurait moins de merde sur YouTube. Ça vaut pour la télé aussi. Hein, arrêtez de vous plaindre des émissions débiles qu'il y a à la télé, tout en « ouais, mais je la regarde quand même, mais en fait, c'est juste pour m'en moquer tellement elle est débile. » Ouais, ben, une vue, une voix. Si vous n'aimez pas un YouTuber, ne le regardez pas. Ça vaut pour moi aussi. Si vous, bien sûr. Si vous n'aimez pas quelque chose, ne le regardez pas, ne le suivez pas, même en vous disant « Ouais, non, mais moi, je suis plus malin que les autres. Je le suis, mais en fait, c'est pour mieux le critiquer. » Donc, arrêtez de vous plaindre de l'état d'Internet, des faux influenceurs et tout ça, si derrière, vous les suivez comme des benets. Hein ? Et comme dit Guillaume, effectivement, n'hésitez pas à soutenir vos créateurs, que ça soit d'ailleurs en financement, mais ça peut être aussi un simple like, faire l'effort d'une seconde de mettre un like sur une vidéo, on vous le rabâche que c'est important, liker la photo d'un vrai photographe que vous suivez ou de quelqu'un dont vous aimez sa pratique d'Instagram, soutenez ces gens-là. N'ayez pas le like facile, n'ayez pas la vue facile, votez avec ce que vous faites. Une seconde pour un like, t'as une communauté. Bah écoute, je me demande, parce qu'on arrive péniblement, on met très péniblement à, je sais plus, c'est 1 ou 10% des gens qui regardent une vidéo qui prennent le temps de mettre un like. Et encore, quand t'es à 10%, tu peux te dire « Waouh, pas mal !» Or, le like, ouais, c'est important. Ne croyez pas que ça sert à rien. Et un commentaire, c'est encore mieux. Même pour dire « J'ai bien aimé ta vidéo, mon gars !» Continue. Allez, on arrive dans le petit vide-ton fac traditionnel de fin d'émission. Je vérifie auprès de mon bon Samuel s'il y a une question platinium ou pas. J'ai pas l'impression, pas de question platinium. Donc le champ est ouvert, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et j'ai une révélation à vous faire d'ailleurs. Je présente cette émission en slip, parce qu'il fait chaud. Hein, vous fantasmiez beaucoup sur les présentateurs de la télé qui présentent des émissions en slip. Eh bien, je vous le dis, ce matin, je présente en slip. Voilà. Je ne vous le montrerai pas, parce que c'est indécent, mais je présente cette émission en slip. Sachez-le. Pic, oh, it didn't happen. La couleur, il est gris. Il faut me croire sur parole. Si je vous montre ma jambe, déjà, est-ce que vous me croirez ? Voilà. Vous avez vu ma petite jambe poilue, hein ? Ma petite jambe de sauterelle. Bref, c'était la révélation que je tenais à vous faire ce matin. Le choc. Oh, mes yeux ! Vite, faut que je me lave les yeux, vite. You cannot unsee what you just seen. Ce matin, j'ai sauvé un oiseau pendant cette émission, mon chat bouffe tout. Eh bien, écoute, bravo Nicolas. Et du coup, mange un poulet pour fêter ça. J'ai fait un screen. Tout le monde a le screen de ma jambe. Ouais, ça vous fait une belle jambe, d'ailleurs. Moi, j'ai un forfait 4G 80 gigas. Et j'ai tout claqué ce mois-ci. Moi aussi, je regarde le Texcope en cible. Ce matin, c'est le grand déballage. Hein. Tout le monde dit la vérité. Allez, tous ceux qui regardent le Texcope en slip, ou d'ailleurs sans slip, vous devez le dire. Est-ce qu'il y avait des questions sérieuses dans toutes ces conneries, dans cette fête du slip? Alors, mince, je réécris. J'avais une question. Où branche-t-on les récepteurs synchro flash pour des flashs de studio? Alors, sur ton appareil principal. Ah non, les récepteurs, sur les flashs. Honnêtement, il faudrait que tu poses la question à Tristan. Le mieux, c'est que tu poses la question sur Twitter directement à Tristan Pavio. Je suis pas très flash, moi. Je pense quoi de la 5G de Bouygues? J'ai pas vu la démo. Je sais que certains ont fait. Il y avait une démo à Bordeaux. Je sais que l'équipe de Feu Geek King Studio Renegade, je crois qu'ils ont fait une vidéo là sur la 5G. Oui, c'est ce que je dirais moi aussi. Les récepteurs, tu les branches sur les flashs. Vas-tu retravailler avec DJI? Je vais vous parler de trucs DJI. Je pense pas en travaillant directement avec DJI. Peut-être un distributeur de DJI plutôt. En fait, pour tout vous dire, je suis plus à l'aise quand je peux. Hein. Ce n'est pas toujours possible. Je suis plus à l'aise pour vous parler d'un produit quand c'est un distributeur qui me l'a filé que quand c'est un constructeur. Vous comprenez facilement pourquoi. Un constructeur, on dit, hein, c'est lui qui a fait le truc. Si j'en dis trop du mal. Ou... Bon, après, j'hésite pas parce que je m'en fous. À la limite... ma réputation, j'en ai un peu rien à foutre et mon business model n'est pas vraiment sur les vidéos sponsors. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je suis beaucoup plus à l'aise. C'est ce que j'expliquais par exemple hier, c'est que j'ai eu aucun problème pour signer avec SOS Ciné pour un partenariat où ils m'aident à faire la playlist SOS Shoot. Et il a même parrainé, on va dire, la playlist SOS Shoot, parce que c'est un loueur, c'est un distributeur. Il n'a pas de parti pris sur le matos. Lui, justement, et en plus, il a une expérience très intéressante, Albert, sur tel ou tel matos, est-il solide ou fiable? Parce que si vous saviez ce que les gens font au matériel de location, je peux vous dire que si Albert vous dit qu'un appareil est solide, il est vraiment solide. À la rentrée, je compte acheter le Sony A7 III, mais je suis perdu au niveau des objectifs, des conseils ou des sites pour trouver quelque chose, pour bien structurer, pour m'y retrouver. Écoute, Karima, j'ai presque envie de te dire, ça va peut-être pas te plaire, mais si tu n'y connais rien en objectif, c'est peut-être pas un A7 III que tu devrais acheter, parce que tu es en train d'acheter quand même un boîtier à 2000 euros et tu n'y connais rien en objectif. Je serais toi, je commencerais peut-être avec un appareil plus accessible, moins cher, et petit à petit apprendre. Parce que les objectifs, tu vas pouvoir lire des sites, etc. Mais en fait, il n'y a que ta pratique des objectifs qui vont te dire ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu aimes vraiment en objectif. Donc moi, je te conseillerais d'acheter un boîtier moins cher et peut-être de mettre de l'argent pour louer des objectifs et en acheter après. Voilà, c'est plutôt mon conseil. Toujours pas de fibre à l'atelier, non. Fell d'Orange hier, ils n'ont pas réussi à installer la fibre. Le boîtier était trop haut. Il fallait qu'il soit deux pour tenir l'échelle. Ce à quoi j'ai pas pu leur dire. Oh, les mecs, parce que bon, vu que j'ai fait une chute de 4 mètres d'une échelle, j'allais pas leur dire non, mais les mecs, c'est pas dangereux une échelle. Donc, bon, t'es un peu... voilà, j'ai pas trop insisté non plus. La Surface qui t'a été prêtée par Microsoft, t'en dira pas du mal. Je vous ai dit aussi... enfin, je sais pas, après, c'est à vous de juger. Il faut savoir que Microsoft ne me paye pas du tout. Hélas. En tout cas, ils m'ont pas du tout payé pour les vidéos sur la Surface que vous avez vues. Donc moi, à partir du moment où je suis pas du tout payé... alors là, je dis vraiment ce que je pense. Après, je serais un con et un naïf pour vous dire que je ne suis pas influencé par c'est tout con, hein, mais parfois la gentillesse d'un RP qui m'envoie un petit mail pour me dire, alors Jérôme, les surfaces, ça se passe bien, ah ouais, puis on voulait t'envoyer. Tu vois, c'est con, mais forcément, ça a une influence. Forcément, ça a une influence. C'est bien pour ça que j'essaye de vous informer au maximum de mes rapports avec les marques. Est-ce que le produit m'a été envoyé gratuitement? Est-ce qu'on me l'a prêté? Est-ce que je l'ai acheté moi-même? Quelque part, les tests les plus objectifs que je fais, et en fait, dans l'absolu, je fais jamais un test objectif parce que j'en ai rien à foutre d'être objectif. Je vais vous dire franchement. Mais certainement, les tests où je dis le plus ce que je pense, c'est quand j'ai acheté un produit moi-même. Mais je ne peux pas tout acheter non plus. Donc, quelque part, et ça va en faire bondir plus d'un, mais c'est probablement les tests des produits Apple qui sont les plus objectifs où je suis le moins influencé dans ma tête. Parce que c'est des produits que j'ai achetés. Donc, je suis encore plus impitoyable. Et ouais, je sais, ça va en choquer certains. Mais je ne vais pas non plus, honnêtement, moi je ne vais pas vous mentir en vous disant bah, une vidéo sponso, je suis 100% libre de dire ce que je veux. Même si dans les faits je suis 100% libre de dire ce que je veux, je suis forcément influencé. Forcément. Moi, tout ce que je peux faire au mieux, et c'est ce que je m'efforce de faire, c'est d'être, d'avoir la plus grande transparence possible. Et parfois, je peux vous dire qu'elle me coûte cher, cette transparence, parce que ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, du fait que je suis transparent, qui m'attaquent encore plus. Mais c'est ce que je peux faire de mieux pour vous, c'est vous dire très exactement comment j'ai eu le produit, si ma vidéo, elle est financée d'une manière ou d'une autre, pour que vous sachiez au maximum ce que vous êtes en train de regarder. As-tu un avis sur l'ordinateur Xiaomi Notebook Pro? Non, je ne l'ai pas eu entre les mains, je n'ai même pas lu sa fiche de spec. Non, mais de toute façon, on va clore ce débat. Le mythe de l'article tech objectif, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Ce n'est pas humain, un article tech objectif, ça n'existe pas. Tu n'utilises plus ton iPad lors des lives? Bah écoute, révélation, non seulement je présente l'émission en slip ce matin, mais je l'ai présenté avec mon iPad et non pas avec la Surface. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de surligner mes articles. Si ce n'est pas objectif, c'est putaclic. T'as raison, Bezo, vivons dans un monde où tout est noir, tout est blanc. Si t'es pas objectif, t'as forcément fait un putaclic. Je ne sais pas si tu disais ça sur le ton d'ironie ou si tu le disais en vrai. Mais je vais vous faire une révélation. Vous-même, quand vous regardez un test ou vous lisez un test, vous n'êtes pas objectif. Vous êtes déjà préconditionné. Et ouais. Et ouais. Et oui, et oui. Généralement, quand vous ouvrez une vidéo, vous avez déjà une idée préconçue de ce que vous attendez de cette vidéo. Et ça vous met en colère d'ailleurs quand la vidéo ne concorde pas avec ce que vous aviez envie de penser du produit. Je l'ai beaucoup vécu, notamment avec mon comparatif du Galaxy S9 et de l'iPhone. Des gens qui sont arrivés avec une certitude en tête, parce que beaucoup d'influenceurs leur avaient dit ce qu'il fallait penser. Et quand ils ont vu les résultats de mes photos sur Lightroom, c'est rentré en contradiction avec ce qu'ils pensaient devoir croire du produit. Quel intérêt de faire un montage final en 60 FPS? Ça peut avoir de l'intérêt pour deux raisons, à mon avis. Ton montage final, si tu fais quelque chose où il y a beaucoup de mouvements, du sport, beaucoup de mouvements de caméra. Ça va les rendre plus fluides. Ça va être intéressant aussi si tu t'adresses à un public très gamer qui va avoir l'habitude du 60 FPS. Il est 9h15. Ouais, c'est la fête du slip. Non, mais j'ai envie de rester un peu avec vous. Eh bien, Bruce, tu es mon Bruce préféré. Ainsi que tous les autres Bruce qui me suivent. Si je suis ton YouTuber préféré, t'es mon Bruce préféré. Allez, je prends une dernière question parce que vous avez raison, il faut que je sois raisonnable, surtout qu'on est blindé de taf aujourd'hui. Enfin, comme tous les jours d'ailleurs, mais. Bruce Wayne, c'est de la merde. Je ne le connais pas personnellement et je n'ai aucune preuve concrète que Bruce Wayne me follow sur Instagram. Là, quelqu'un est en train de créer, à l'instant où j'ai dit ça, un compte Instagram Bruce Wayne, rien que pour me follower. J'utilise Final Cut Pro X, oui, en montage. Et il y a Bruce Lee aussi. Prochaine vidéo, bah, ça sera la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça risque d'être une vidéo en 1080p, 25 images secondes. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo. Et elle fera entre 5 minutes et 20 minutes. C'est ça. Je vous en ai vachement dit sur la prochaine vidéo. Et Bruce Banner, hein? Oui, il y aura du son dans la prochaine vidéo. Il y aura des murs, pas que. Je suis en vacances quand? Jamais. Non, les prochaines grandes vacances, non. Alors, on va avoir quelques absences cet été. On part à Lyon. D'ailleurs, putain, oui, j'avais des. Faudra que je vous donne les dates parce que ceux qui sont à Lyon, on va y être un vendredi, on sera dispo à midi. Donc, si vous avez envie de qu'on déjeune ensemble. Ça ne va pas vraiment être un outtake drink, mais on pourra se faire un petit meet-up à Lyon. Je vous redonnerai les dates dans un prochain Techscope. Mais à part ça, on est là tout l'été. Par contre, je vous annonce dès maintenant qu'on va arrêter la chaîne pendant 3 semaines, normalement en janvier de l'année prochaine. Parce qu'on se prépare à un grand et long voyage. Alors, peut-être qu'on mettra des vidéos, mais en tout cas, Techscope s'arrêtera pendant 3 semaines. Et on se prépare des grandes et longues et lointaines vacances. Non, pas le Japon. Pas le Japon. A priori, on va retourner au Vietnam et faire le Cambodge. Parce qu'on n'a pas fait tout le sud du Vietnam. Et surtout, on n'a pas fait le Cambodge avec les ruines d'Angkor et tout ça. Je veux vraiment montrer ça à Marion. Voilà. Je vais vous pourrir Noël. Non, mais il y aura plein de cadeaux avant. Question de réseau de drogue, bravo. Ouais, non, a priori, ça serait Vietnam-Cambodge. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, mais a priori, ça serait là-bas. Ouais, on va pas au Japon, il y a trop de youtubeurs, en fait. Sinon, tu viens au Brésil avec moi. Écoute, Jérôme, proposer comme ça fait un peu bizarre. Hein. Viens au Brésil. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Chevalier et Las Palès ont fait le tour de l'aéroport. Je ne sais pas ce que tu racontes. Est-ce que tu nous feras découvrir et connaître le Vietnam? Non, les gars, quand je pars en vacances, alors je ferai des stories. Ah oui, je ferai des stories sur Instagram. Mais je vous le décrète, hein, c'est ma grande décision 2018. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Je ne fais pas des vlogs, je ne fais pas des vidéos sur place, je ne travaille pas, parce que oui, c'est un travail. Après, je ferai peut-être des voyages où je vous filmerai des choses, mais ça sera des voyages boulot. Mais un peu comme vous, si j'ose le dire, quand je vais prendre des vacances, je vais prendre des vraies vacances, en fait. Je sais, c'est choquant. Je sais. Je sais que j'en choque plus d'un, que c'est un peu révolutionnaire ce que je dis. Allez, goût du chat, meilleur goût que la licorne. Ah, mais arrêtez, vous êtes dégueulasse. Et t'as pas honte? Un petit peu, mais en fait, c'est vite passé. Je suis complètement réac, ouais. Tu es youtubeur toujours en vacances? Bah oui, je travaille pas. Allez, il faut y aller. Samuel, tu as raison. Allez, monsieur, sortez de scène. Hein. Il est 9h20, là. Rentrez chez vous. Il n'y a plus personne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.